Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé. Merci d'écouter la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal en français dont voici d'abord les principaux titres. Deux personnes ont été tuées la nuit d'hier dans les communes de Marangara et Ngozi, dans la province de Ngozi. Les criminels ne sont pas encore connus. On fera le point en début de ce journal. Et puis l'organisation internationale Human Rights Watch trouve que le gouvernement burundais n'a pas la volonté de promouvoir les droits de l'homme et s'appuie sur son comportement visant à accuser le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de s'ingérer dans les affaires internes du Burundi. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les coopératives et les sociétés travaillant dans le domaine des minerais au Burundi. Elles peuvent désormais reprendre leurs activités d'extraction de l'or dans les communes Mutihinda, Gasolgwe et Muyinga, dans la province de Muyinga. Il leur est demandé de travailler dans le strict respect de la loi. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes mardi 5 juillet 2022.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons insécurité pour commencer ce journal. Deux personnes des communes Marangara et Ngozi de la province de Ngozi ont trouvé la mort dans la nuit de ce lundi à mardi dans des circonstances non encore élucidées. La police à Ngozi dit avoir déjà commencé des enquêtes pour que la vérité sur ces crimes soit établie. Le point avec Pierre Gaung.
Le premier décès est celui d'un sexagénaire qui était connu sous le nom de Deoniri Diejo, originaire de la colline Chigumije en commune Ngozi. Selon les sources administratives, le corps sans vie du défunt a été retrouvé dans la matinée de ce mardi, pendu sur une corde. Toutefois, les mêmes sources pensent que la personne concernée a été tuée, puis son corps aurait été ainsi suspendu afin de fausser les enquêtes. Quant aux voisins du défunt, ils font savoir qu'il n'était pas en bon terme avec sa conjointe, si bien que les mêmes voisins assuraient souvent la médiation entre le couple, mais en vain. Ensuite, poursuivent les voisins, il y a quelque temps que la femme du défunt a quitté le toit conjugal sans en informer personne. La police d'Ngozi dit avoir déjà amorcé des enquêtes afin que les circonstances de cette mort soient élucidées. Le deuxième décès est celui d'un chauffeur de voiture taxi de type Robox, connu sous le nom de Jean Bosco Niyonkuru, originaire de la commune Malangara. Selon les informations fournies par ses proches, c'était vers 20h quand Jean Bosco a été appelé par téléphone par des inconnus qui lui disaient que leur véhicule était en panne et qu'ils avaient urgemment besoin de son intervention pour les dépanner. Arrivé à l'endroit convenu, du côté de la commune Vumbi en province Kirundo, il a été accueilli par des coups de poignard, puis il a rendu l'âme sur le champ. Le corps sans vie a été placé dans sa voiture et sans causer un quelconque dégât. La police Ngozi pense à un règlement de compte et dit que les enquêtes à propos de cet assassinat ont déjà commencé afin que les criminels soient identifiés.
Deux autres personnes ont été interpellées par la police ce lundi dans la commune Kayogoro de la province Makamba. C'est pour avoir emmené un jeune garçon de 12 ans en République unie de la Tanzanie en violation de la loi. Selon les informations recueillies dans cette province, l'enfant avait disparu il y avait plus de 7 ans, le point avec Alexandre Niyongeko.
L'enfant enlevé habitait sur la colline Gatabo, dans la commune de Kayogoro. Nous sommes dans la province de Makamba, au sud du Burundi. Selon les informations recueillies auprès des habitants de cette colline, un des voisins, connu sous le nom de Jean de Dieu Bayoubahé, l'a amené en République unie de Tanzanie pour, soi-disant, lui trouver du travail. Mais personne ne l'a revu. En 2014, l'enfant avait 12 ans. La famille a porté plainte auprès des autorités administratives et policières, mais ces dernières ne l'ont jamais aidé, mais au contraire, c'est elle qui était souvent convoquée. Les personnes interpellées sont un père et son fils, dont les noms sont respectivement Melchior Naimera et Jean de Dieu Bayoubahé. Les autorités administratives et policières de Kayogoro avaient refusé de convoquer ces derniers. Les mêmes sources précisent que les plaintes de la famille du jeune garçon n'ont jamais été tenues en considération ni par l'administrateur de la commune de Kayogoro Antoine Ndayiragije, ni par l'officier de police judiciaire de la même commune. Les deux personnes de la même famille, originaires de la colline Gatabo, ont été arrêtées sur lundi sur ordre du procureur de Makamba. Les habitants de cette localité signalent qu'un grand nombre d'enfants qui partent vers la République unie de Tanzanie ne revient jamais. En plus, des informations faisant état de plusieurs filles, surtout des domestiques, sont souvent embarquées vers la Tanzanie. Les personnes interpellées sont pour le moment gardées au cachot du commissariat communal de police dans la commune de Kayogoro.
Il n'y a plus d'espoir que le gouvernement du Burundi accepte de coopérer avec le nouveau rapporteur spécial des Nations Unies chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits humains au Burundi. Dans la séance du 29 juin du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le représentant du Burundi a accusé le Conseil d'ingérence politique dans les affaires internes du Burundi. L'organisation internationale Human Rights Watch trouve que le Burundi n'a pas de volonté d'avancer vers la protection des droits humains dans le pays. On fait le point avec Edine Claude Nininahazwe.
Il est difficile de déterminer quels efforts le gouvernement burundais déploie réellement pour lutter contre les violations systémiques des droits humains dans le pays. Dans son communiqué, Human Rights Watch indique que depuis l'arrivée au pouvoir, il y a 2 ans, du président Evariste Ndayishimiye, leurs enquêtes ont mis en évidence le même schéma d'abus que ceux perpétrés sous le régime de Pierre Nkurunziza, son prédécesseur. Clémentine Domaine-Tuoge, chercheuse à la division Afrique dans cette organisation, déplore que le gouvernement burundais reste cramponné sur son refus de coopérer avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi.
C'était la première présentation du nouveau rapporteur spécial. On aurait espéré voir une réaction plus positive de la part des autorités. Après tout, ils avaient entièrement refusé de collaborer avec la commission d'enquête sur le Burundi pendant plusieurs années. Donc ce nouveau mandat présentait une opportunité pour commencer sur de nouvelles bases et permettre un monitoring indépendant de la situation des droits humains au Burundi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Un refus de coopérer qui présente de conséquences pour l'avenir du pays en matière de lutte contre des violations des droits humains. La chercheuse Human Rights Watch indique que les efforts de certains médias et associations des droits humains sont toujours limités, selon toujours Clémentine Domaine-Tuoge.
C'est un message préoccupant de la part des autorités, ce refus de permettre un travail de documentation des violations des droits humains indépendants au Burundi. Il y a encore quelques médias, quelques défenseurs des droits de l'homme dans le pays qui cherchent à faire ce travail, mais qui prennent beaucoup de risques. Et tant qu'il n'y a pas un accès pour que des organisations indépendantes ou des mécanismes comme le rapporteur spécial puissent faire ce travail au Burundi, il sera difficile de connaître réellement l'ampleur et la gravité de la situation des droits humains.
Il est temps que les autorités burundaises passent de la parole aux actes en donnant accès au rapporteur spécial, en libérant toutes les personnes injustement emprisonnées, en arrêtant les auteurs de violations de droits humains et en ouvrant des poursuites à leur encontre, conclut Human Rights Watch dans son communiqué.
En refusant de coopérer avec le rapporteur spécial des Nations Unies, le Burundi s'expose aux sanctions de la communauté internationale. C'est du moins l'avis de Maître Gustave Niyonzima, activiste des droits de l'homme. Il trouve aberrante l'attitude du gouvernement burundais à ce sujet. On écoute Maître Gustave Niyonzima.
C'est vraiment époustouflant et patibulaire de la part de l'État de rejeter des appels de donner accès au rapporteur spécial des Nations Unies, chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits humains au Burundi. Ce refus est consécutif à une présentation du rapporteur spécial, d'où certains États avaient exprimé les préoccupations de la situation délétère en matière des droits humains au Burundi, exigeant par conséquent aux autorités burundaises de mener des enquêtes exhaustives et de poursuivre les cas des exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, des emprisonnements arbitraires et illégaux, de tortures et d'autres abus des droits humains. Comme conséquence de telles moroses attitudes de la part de l'État, ce dernier risque de replonger dans des sanctions économiques et de l'isolement de certaines institutions internationales, inter alia l'Union européenne, les Nations unies et certaines autres institutions institution bancaire. Donc, on voit que le pays sur la coule douce, alors qu'il y a des violations graves des droits de l'homme au Burundi, mais les préposés de l'État ne sont pas du tout inquiétés.
Inzamba. Dans l'actualité de ce mardi également, plus de 2000 litres de carburant entrés frauduleusement dans la province Lumonge ont été saisis par la police la semaine dernière. Les habitants de cette province pensent que c'est ce carburant qui se vend sur le marché noir. Depuis la coupure de la route Bujumbura-Lumonge il y a 2 semaines, trouver le carburant est devenu un véritable casse-tête produit dans cette province du sud du pays. Raoul Ngengrutse nous en dit plus.
Selon les informations recueillies par la radio Inzab, ce carburant qui a été saisi est de type essence et mazout. La semaine dernière, 2000 litres d'essence ont été saisis. 200 litres d'essence et 100 litres de mazout ont été saisis au centre urbain de Lumonge sur le marché noir. Les mêmes sources révèlent que plus de 1600 litres d'essence ont été saisis par des militaires à Minago, en province de Bujumbura. Ils ont remis ce carburant à la police. Les personnes qui ont été appréhendées disent avoir acheté ce carburant à Bujumbura pour l'utiliser dans les bateaux à moteur pour la pêche, car le carburant est devenu un produit rare à Lumonge. Certains habitants de Lumonge estiment que l'administration et la police devraient faciliter la tâche aux personnes qui s'approvisionnent en carburant dans d'autres provinces, mais dans la transparence. D'autres disent ne pas comprendre la destination de ce carburant. Ce carburant qui a été saisi appartiendrait à certains hauts gradés de la police qui le revend sur le marché noir. Tous ces problèmes se posent après la coupure de la route nationale Bujumbura-Lumonge il y a 14 jours. Jusqu'à ce lundi, il n'y avait pas de carburant dans la province de Lumonge. Au marché noir, un litre d'essence obtenu difficilement se vendait à 14 000 francs burundais. Ces habitants demandent la réfection immédiate de cette route nationale pour que le trafic redevienne normal. Suite à toutes ces lamentations, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu ni la version de Conservateur Nitunga, gouverneur de la province Lumonge, ni celle de Régis Mayunayo, directeur général de l'agence routière du Burundi.
Restons dans cette province de Lumonge pour vous dire qu'une pirogue qui servait de transport des personnes qui veulent franchir la zone inaccessible de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Lumonge au niveau de Rutunga, dans la commune Muhuta, a fait un accident hier sans faire de dégâts humains. Les usagers de cette route se lamentent. Ils dénoncent une pratique de réclamation de pots de vin utilisée par les responsables administratifs et les policiers pour donner le passage dans les eaux du lac Tanganyika avec des pirogues. Plus de détails avec Josephine Jones Munziman.
Barahombye imboga zarimo abana bariko baranobagura indagara zasanzaye vya mato ndabona.
C'était dans la journée de ce lundi, exactement dans la localité de Kijejete sur la colline Rutunga, dans la commune Muhuta en province de Lumonge. Une pirogue qui servait de déplacement pour les personnes et leurs biens venait de s'écrouler dans les eaux du lac Tanganyika. Les raisons de déplacement par cette pirogue, c'est l'éboulement de la colline Rutunga. Le dit éboulement a provoqué la fermeture de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Lumonge. La fermeture de cette route est venue comme une source de revenus chez les Imbonerakure, policiers et militaires, sous prétexte d'y assurer la sécurité. Ce qui fait que même les piétons qui pourraient trouver un passage et leurs marchandises sont bloqués et utilisent la pirogue pour se déplacer. Les propriétaires des pirogues versent en contrepartie de l'argent chez les trois groupes ci-cités.
Il y a ceux qui ont profité de la destruction de cette route. Il y a un passage où les piétons pourraient passer et même une motocyclette. Mais les militaires, les policiers, les Imbonerakure qui gardent la sécurité, ils leur refusent l'accès. Ils sont là pour la collecte de l'argent. C'est du désordre. Ils demandent le versement de pots de vin. Les propriétaires des pirogues doivent verser chaque jour de l'argent. Ils profitent de cette coupure de la route.
un ragazzo che diceva Mahigo. Mi ricordo che facciamo cani, lari, cani, la cacciagari, la cacciagari.
Au cours de cet accident, aucun dégât humain n'a été signalé, mais des dégâts matériels ont été reportés. 8 caisses de poissons noyées et des objets électroniques comme des téléphones qui ont été endommagés. Les usagers de cette route demandent l'éradication de ce désordre dans la collecte de l'argent et la construction de cette route par des techniciens qui tiendront en considération cet éboulement de la colline Rutunga qui date de longtemps. La rédaction de la radio Inzamba Gatikakawe, nous avons essayé de contacter par téléphone Madame Domitil Nondrenimana, administratrice de la commune Muhuta, pour éclairer l'opinion sur cette situation, mais sans succès.
Dernier dossier de ce journal, après une période de près d'une année de suspension des activités d'extraction de l'or par les coopératives et les sociétés multinationales, ces dernières sont désormais autorisées à reprendre les activités dans les communes de Utihinda, Muyinga et Gasulgwe de la province de Muyinga. Le gouverneur de cette province, Jean-Claude Walutkwanayo, demande à ces coopératives de reprendre leurs activités en se conformant à la loi. Il les appelle à couper court avec la mauvaise pratique de vendre leur production frauduleusement. Suivez.
Nous nous en félicitons parce que les habitants de Utihinda venaient de passer des jours à se lamenter. Ils n'exploitaient pas l'or. Nous vous avons autorisé depuis hier à reprendre de creuser. Mais alors, il ne faut pas faire l'extraction pour aller ensuite dans la fraude ou aller revendre à l'étranger. Qu'ils fassent l'extraction et qu'ils amènent le produit à la banque centrale pour qu'ils aient leur part et que le pays puisse se développer. Celui qui pense autrement n'est pas encore indépendant. Il est encore derrière les colons.
Ces coopératives et sociétés multinationales avaient interrompu leurs activités en juillet 2021 sur injonction de l'État burundais qui voulait mettre de l'ordre dans ce secteur. Eh bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la radio Inzamba, à Gatekakawe. Au revoir et à la prochaine.